VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Idrissa Seroudia et Salwa Jafari à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Les grands points de l'actualité.
Le verdict est tombé dans le procès de Karim Ouad. Le fils de l'ancien président sénégalais écope de 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite.
Mouvement de contestation en Sierra Leone. Les parlementaires de l'opposition rejettent la décision du président Ernest Bai Koroma de limoger son vice-président.
En Tunisie, le Premier ministre limoge 5 responsables de la police après avoir constaté des lacunes dans la protection du quartier et du musée du Bardo, théâtre il y a 5 jours d'un attentat qui a coûté la vie à 21 personnes.
Le président afghan invité de la Maison-Blanche, Ghani, est en visite officielle de 4 jours pour parler coopération et présence des troupes américaines en Afghanistan.
Dans notre page magazine, nous parlerons des élections au Nigeria. Les Nigérians, rendez-vous avec les urnes ce samedi. La campagne électorale bat son plein. Goodluck Jonathan est au coude à coude avec son principal rival, Muhammadu Buhari.
Et comme d'habitude, notre page économique, les sports et la musique. Mais d'abord, le journal. Au Sénégal, verdict dans le procès de Karim Ouad, l'ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, a été condamné pour enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et à une forte amende. Pour nous en parler, Nicolas Pinot en studio.
Oui, Idrissa, dans cette condamnation qui est inférieure aux réquisitions du procureur, mais elle reste un coup dur pour les partisans de Karim Ouad. Ouad fils est condamné à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Le chef d'accusation de corruption n'a en revanche pas été retenu contre Karim Ouad, qui ne se voit donc pas privé de ses droits civiques. Emprisonné depuis avril 2013, l'ancien ministre du ciel et de la terre, comme l'appelaient ses détracteurs, devrait donc rater, sauf miracle, la prochaine présidentielle, alors qu'il a été désigné ce week-end par le bureau du Parti démocratique sénégalais comme candidat. Karim Ouad va se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, c'est ce qu'a confirmé ce soir à VOA Afrique l'un de ses avocats, Maître Cyril Clédorly. Ouad peut aussi espérer une grâce présidentielle. Cette dernière hypothèse est pourtant de l'ordre d'une chimère, puisqu'on sait que Macky Sall a décidé d'aller jusqu'au bout en matière de bonne gouvernance. Ce verdict a été accueilli dans les pleurs par les partisans du condamné. Abdoulaye Ouad, le père et ancien président du Sénégal, avait fait le déplacement ce lundi matin à Dakar. Cette décision met fin, pour le moment, à cette affaire judiciaire hors norme.
Merci Nicolas. Maintenant, Salwa.
En Sierra Leone, les parlementaires de l'opposition contestent la décision du président Ernest Bai Koroma de limoger son vice-président, Samuel Sam Soumana. Se plaignant de violations flagrantes de la Constitution, le secrétaire général du principal parti d'opposition sierra-léonais se promet de saisir la Cour suprême du pays. Sam Soumana a été accusé de former son propre mouvement politique.
La santé de l'opposant congolais Jean-Claude Muyambo, un des leaders des manifestations sanglantes de fin janvier en RDC, se dégrade en prison et doit être évacué rapidement pour bénéficier de soins appropriés. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui son avocat. Président du Parti Solidarité Congolaise pour la démocratie et le développement, Jean-Claude Muyambo avait rejoint l'opposition en novembre, accusant le président Joseph Kabila de vouloir rester au pouvoir au-delà du terme de son deuxième mandat fin 2016, alors que la Constitution lui interdit de se représenter.
En République centrafricaine, le ministère de la Défense nationale lance à partir d'aujourd'hui une vaste opération de désarmement volontaire des forces de défense et de sécurité. Dans un communiqué, le ministère d'État à la Défense nationale invite tous les membres et les éléments des forces de défense et de sécurité à signaler, déclarer et réintégrer les armes et munitions de guerre en leur possession. Le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Dans le communiqué, le ministère de la Défense donne 30 jours aux concernés pour déclarer les armes et munitions de guerre en leur possession. À l'expiration du délai, tout élément qui sera appréhendé en possession d'armes et munitions de guerre non déclarées et non identifiées tombera sous le coup de la loi. Toujours dans le document, la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara, invite en premier lieu les officiers généraux à donner un bel exemple en déclarant leurs armes et munitions, ainsi que celles de leurs aides de camp et éléments de sécurité respectifs. 3 sites sont retenus pour la facilitation de l'opération. Il s'agit du ministère de la Défense, la direction de la gendarmerie nationale et le ministère de la Sécurité publique. L'opération s'inscrit dans le cadre de la célébration du 54e anniversaire des forces armées centrafricaines prévue pour le 4 avril prochain.
En Tunisie, vu les failles qui ont marqué l'attentat contre le musée Bardot à Tunis, le Premier ministre a limogé 5 hauts responsables de la police. Je vous rappelle que les assaillants ont tué 21 personnes dans l'attaque la plus meurtrière en Tunisie depuis 13 ans. Michel Joseph nous en dit plus.
Une décision prise par le Premier ministre après une visite dans le quartier qui a été le théâtre de l'attentat. Les chefs de la police de Tunis et du musée du Bardot, ainsi que 3 autres agents de sécurité, ont payé le prix de défaillances flagrantes, comme l'absence d'agents de sécurité autour du musée, le plus prestigieux de Tunisie, qui plus est situé à proximité du Parlement. Les responsables limogés ont aussitôt été remplacés. 20 touristes étrangers et un policier tunisien ont été tués dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Un troisième agresseur identifié est en fuite. Interrogé sur l'avancée des investigations sur les auteurs de cette attaque, le président Essebsi a évoqué pour la première fois un troisième terroriste. Tunis se prépare malgré tout à rouvrir le musée du Bardot demain.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardito Leone, a estimé aujourd'hui qu'il y avait une chance que les parlements libyens rivaux proposent les premiers noms pour un gouvernement d'union nationale cette semaine. Les négociations entre ces deux parlements, qui se déroulent au Maroc sous l'égide des Nations Unies, ont été prolongées, avait annoncé le représentant spécial de l'ONU pour la Libye hier soir, affirmant espérer jeter cette semaine les bases d'un accord final sur un gouvernement d'union.
Les forces somaliennes, appuyées par la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ont repris aux islamistes Shebab l'île de Kudai sur la côte est du pays, a annoncé l'AMISOM dans un communiqué aujourd'hui. Kudai était le dernier fief des Shebab dans la région et fut une base logistique et opérationnelle clé utilisée pour lancer des attaques dans le sud du pays. Elle a aussi servi de point d'entrée pour la contrebande dans la région, selon la force africaine. L'AMISOM affirme que le départ des Shebab de Kudai les chasse de tous les ports d'importance de la région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Yémen n'est plus la chasse gardée d'Al-Qaïda. L'activisme de l'État islamique est visiblement en croissance. L'organisation vient de revendiquer la mort de 29 agents de sécurité dans la province de Lajj, dans le sud, la deuxième wilaya ou province qu'elle revendique dans le pays. L'État islamique avait déjà annoncé opérer dans la capitale Sanaa en revendiquant vendredi les attaques suicides contre les mosquées, faisant 142 morts, principalement parmi les fidèles chiites et les miliciens houthis. Cette attaque est considérée comme l'acte de naissance de l'État islamique au Yémen.
Coup d'envoi aujourd'hui de la visite officielle de 3 jours du président afghan à Washington. Ashraf Ghani s'est félicité du formidable partenariat entre les États-Unis et son pays, tout en remerciant les troupes et les contribuables américains pour leur sacrifice au nom de la liberté et de l'espoir. Jacques Aristide.
L'Afghanistan, un pays appauvri, marqué par près de 14 années de guerre, mais au Pentagone en Virginie ce lundi, son nouveau président Ashraf Ghani a promis que le pays cesserait d'être un fardeau pour l'Occident.
We do not now ask what the United States can do for us.
Nous ne demandons plus ce que les États-Unis peuvent faire pour nous, pour paraphraser le président Kennedy. Nous voulons dire ce que l'Afghanistan va faire pour lui-même et pour le monde. Le terrorisme est une menace, c'est le mal. Mais nous, le peuple afghan, sommes prêts à dire la vérité face à la terreur en disant « Non, vous ne pourrez jamais nous accabler, nous obliger à nous soumettre, nous allons vaincre ».
Après sa rencontre aujourd'hui avec les secrétaires d'État John Kerry et la Défense Ashton Carter, Ashraf Ghani et son chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, seront reçus demain mardi par le président Barack Obama et son numéro 2, Joe Biden. Mercredi, le dirigeant afghan prendra la parole lors d'une réunion conjointe au Congrès. Jeudi, les deux hommes se rendront à New York pour des réunions aux Nations Unies. En haut de l'agenda de cette tournée américaine du président afghan, le retrait des troupes américaines, un retrait qu'Ashraf Ghani souhaite retarder en raison des attaques terroristes perpétrées pratiquement quotidiennement sur le territoire afghan.
« Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Bion.
Le pétrole est plus que jamais au cœur du conflit politico-militaire en Libye, où deux gouvernements rivaux se livrent une bataille sans merci pour s'emparer de l'industrie de l'or noir, quasiment l'unique source de revenus du pays. Symbole de cette lutte, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, exilé dans l'est du pays, a récemment annoncé sa rupture avec la Compagnie nationale libyenne de pétrole et la mise en place d'une structure concurrente. Quelque 1,5 million de personnes souffrent actuellement d'insécurité alimentaire en République centrafricaine. Jean-Alexandre Skaglia, représentant de la FAO en République centrafricaine, basé à Bangui, parle de la situation actuelle sur le terrain.
La première demande, ce sont les semences. Les stocks semenciers du pays sont extraordinairement faibles. Des semences pour les légumes, des semences de maïs, l'accès à des boutures de manioc qui sont vraiment des voies plus dans le nord du sorgho, qui sont vraiment des cultures de base ici, qui nourrissent la population et la première demande, c'est des semences.
La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a déjà dépensé des fonds en faveur de 86 400 ménages, mais elle a besoin de 6,2 millions de dollars supplémentaires pour venir en aide à 63 600 ménages en vue de la prochaine campagne de semis. Et ABB décroche une commande de 160 millions de dollars en Afrique du Sud. Le groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB va fournir du matériel à Eskom, la compagnie publique d'électricité en Afrique du Sud. Le matériel est destiné à la centrale à charbon de Kusile, dans le nord-est du pays, actuellement en cours de construction.
Tout de suite les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Saloua.
Football tout d'abord, les Jeux africains en vue pour les sélections africaines.
Oui, le dernier tour aller des éliminatoires s'est déroulé ce week-end. Chez les hommes, où le tournoi est réservé aux moins de 23 ans, l'Égypte a fait un grand pas vers la qualification en gagnant 2-0 au Burundi. À Bamako, le Mali a été accroché de partout par le Sénégal. Le Burkina Faso l'emporte à Ouaga 2-1 devant la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun qui a été battu 1-0 au Zimbabwe. Chez les femmes, où ce sont les équipes nationales A qui jouent, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Cameroun ont remporté des victoires précieuses à l'extérieur. Match nul un partout entre le Mali et le Nigeria. Même chose entre les Égyptiennes et les Sénégalaises, 0-0. Et puis la Côte d'Ivoire est qualifiée suite au forfait de la Guinée-Bissau. Je vous rappelle, Saloua, que les sélections masculines et féminines du Congo sont qualifiées d'office pour cette 11e édition des Jeux africains qui aura lieu en septembre prochain à Brazzaville.
Et retour au Nigeria, prévu aujourd'hui pour les Flying Eagles.
Alors que tout le Sénégal s'était mis à rêver d'un sacre continental pour les Lionceaux, ce sont bien les Flying Eagles qui ont remporté hier le championnat d'Afrique des moins de 20 ans pour la 7e fois. Et ce, grâce à un but phénoménal de Bernard Boulbois. En prologue, le Ghana avait décroché la 3e place en battant le Mali 3-1 et complété ainsi le triomphe des pays anglophones. Consolation tout de même, ces 4 équipes iront ensemble à la Coupe du Monde de la catégorie prévue cette année en Nouvelle-Zélande.
Le FC Barcelone brille sur les terrains, mais pas sur le plan judiciaire. Nicolas ?
Le parquet espagnol a requis 2 ans et 3 mois de prison contre le président du FC Barcelone, Josep Maria Bertomeu, et 7 ans contre son prédécesseur, Sandro Rosell, pour des délits fiscaux présumés liés au transfert de Neymar en 2013. Le parquet de l'Audience nationale de Madrid réclame également une amende de plus de 22 millions d'euros au Barça. Il accuse Bartomeu, Rosell et le club de délits fiscaux et impute en délit de gestion à l'ex-président Rosell.
Et puis la NBA, championnat de basket nord-américain.
Cleveland a battu Milwaukee 108-90 grâce notamment à un superbe LeBron James, auteur de 28 points. L'ancien club de James, Miami, est tombé face à Oklahoma City 75-93. San Antonio a battu Atlanta 114-95. Peu de chance pour la Nouvelle-Orléans face aux Clippers de Los Angeles, défaite 100-107. Défaite également des Knicks de New York, c'est une habitude, cette fois contre Toronto 89-106. Sacramento qui s'impose devant Washington 109-96. Victoire de Détroit sur Boston 105-90. Et Philadelphie qui est tombée face aux Lakers de Los Angeles 87-101.
Voilà, c'était le journal des sports. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia, Salwa Jafari, en votre compagnie pour cette édition du lundi 23 mars 2015. Place au dossier du jour.
Retour sur la condamnation de Karim Ouad au Sénégal pour enrichissement illicite. 6 ans de prison ferme et 138 milliards de francs CFA d'amende. C'est la somme que devra verser le fils, l'ex-ministre de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad. Ce procès a été très suivi en perspective de la prochaine présidentielle, puisque Karim Ouad a été désigné par le PDS, principal parti d'opposition, comme candidat du parti pour la présidentielle. Ces décisions semblent aujourd'hui caduque en raison de la privation des droits civiques de Karim Ouad. Écoutons l'analyse d'Aliou Ntine sur ce procès, militant sénégalais des droits de l'homme. Il avait été meurtri dans sa chair sous le régime d'Abdoulaye Ouad. Nicolas Pinault a recueilli la réaction de celui qui est aujourd'hui le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Il y a quand même un goût d'inachevé. Hein. Combattre la corruption, le détournement de deniers publics, franchement, c'est extrêmement important parce que ces crimes économiques sont restés impunis, je dirais, depuis l'indépendance. Il n'y a jamais eu grand-chose. Et cette impunité, vraiment, le Sénégal partage cela avec beaucoup de pays de la sous-région. Mais en même temps, il faut absolument mener ce combat en respectant les droits fondamentaux de l'homme, en respectant les principes et les normes d'un procès équitable. Or, quand on prend quand même un mécanisme comme la CRI, c'est une juridiction d'exception. C'est ça qui pose problème.
Beaucoup des partisans de Karim Ouad dénoncent un procès politique. Qu'en pensez-vous?
Écoutez, on ne peut pas ne pas avoir un procès politique. Je dis un, du fait, par exemple, des personnalités qui sont attrayées à la justice. Quand même, à partir du moment où vous avez Karim Ouad, d'une manière ou d'une autre, vous avez un procès politique. Donc, c'est vrai. Le problème que nous avons d'ailleurs justement en Afrique, c'est comment gérer les procès politiques. Et nous n'avons pas encore d'instrument assez adéquat pour gérer les procès politiques ou un instrument qui fait consensus pour dire effectivement si le verdict tombe, à partir de ce moment, tout le monde l'accepte comme tel.
Est-ce qu'aujourd'hui les choses vont dans le bon sens en matière de droits de l'homme au Sénégal?
Ça va dans le bon sens dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines, hein. Il y a des domaines qui restent, vous savez, les droits humains, c'est un idéal. Il y a énormément de travail à faire quand même pour renforcer l'indépendance de la justice avec le président Macky Sall, ça c'est très clair. Il y a beaucoup de choses à faire également pour permettre aux gens de manifester pacifiquement quand ils veulent le faire, parce que quand même c'est un droit fondamental. Souvent quand même, il y a un usage d'usage excessif de la force.
Qu'est-ce que vous pensez de ces arrestations ces derniers jours des proches, plus ou moins, de Karim Ouad, avant ce verdict?
Arrestations qui ne s'expliquent pas, hein, sur la base de soupçons purement et simplement. Ce sont, comme on dit, des arrestations préemptives. On ne voit pas ça de façon générale. Ce n'est pas juste, ça ressemble beaucoup à de la détention arbitraire.
C'était Aliou Ntine, joint à Dakar par Nicolas Pinault.
Dakar. Oui, Dakar, où vous pouvez nous écouter sur 102 FM. Maintenant, le Nigeria, dernière ligne droite cette semaine dans la campagne électorale en vue des élections présidentielles et législatives du 28 mars. Le président sortant de 57 ans est candidat à sa réélection après un premier mandat très critiqué. Goodluck Jonathan, au coude à coude avec son principal rival, Muhammadu Buhari, ancien général de 72 ans, qui a dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une junte militaire dans les années 80. Campagne marquée par les combats qui se poursuivent dans le nord-est du pays contre la secte islamiste Boko Haram. Pour faire le point sur la situation, Jacques Aristide a joint l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique sur place.
Oui, alors en fait, on a l'opposition qui se concentre un peu dans le sud du pays, où eux, ils souhaitent vraiment faire sortir des votes. Il faut rappeler que le candidat Buhari, en 2011, il a vraiment dominé le nord du pays. Et on s'attend qu'il va faire la même chose cette fois-ci. Mais pour gagner cette élection, lui, il faut vraiment qu'il fasse sortir des électeurs qui gagnent beaucoup de votes dans le sud du pays. Alors eux, ils se concentrent sur cette région, le Buhari et des... ouvrir lieu aujourd'hui. Et puis peut-être il va faire une petite sortie au nord à Tati, mais il va terminer sa campagne dans le sud-ouest du pays. Mais pour le parti au pouvoir, le parti du président Goodluck Jonathan, lui, il va faire une dernière meeting à Abuja mercredi pour boucler cette campagne. Et peut-être aussi il va faire quelques sorties au nord du pays cette semaine.
Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans le nord-est du pays. Quelle est la dernière situation dans le nord-est du pays?
Oui, mais bon, les nouvelles qu'on entend sont bonnes. On entend que les Tchadiens et les Nigériens, ils font des progrès dans les régions frontalières. Mais aussi, il y a des nouvelles, par exemple, de l'armée nigérienne qui a repoussé encore une attaque de Boko Haram dans la ville de Bama. Alors, les nouvelles sont plus ou moins bonnes. Oui, pour l'instant.
Cela veut-il dire que les électeurs dans ces régions occupées, contrôlées par Boko Haram, pourront éventuellement voter?
Oui, mais c'est ça la grande question. En fait, la situation pour les personnes déplacées, c'est que eux aussi, ils veulent voter. Par exemple, les gens qui viennent de l'État du Borno, au nord-est du pays, s'ils souhaitent voter, il faut qu'ils retournent à Maiduguri, la capitale de cet État-là. Mais pour la plupart de ces personnes-là, ça fait cher, ils n'ont pas d'argent pour y aller, les routes sont toujours un peu dangereuses. Alors pour eux, il paraît que peut-être ils ne vont pas être capables de voter. Il y a beaucoup de déplacés qui sont là, dans la ville de Maiduguri. Eux, ils peuvent voter dans leur camp, dans la ville. Mais pour les personnes déplacées, même si on parle des soldats qui regagnent le territoire, qui libèrent des villes, etc., et si vous voyez des images de ces villes-là, tout est brûlé, les maisons ne sont même plus là. Alors, les déplacés, ils nous disent, mais écoutez, on aimerait bien rentrer chez nous, mais on ne peut même pas. Il n'y a même pas un endroit pour vivre. Alors, nous, comment est-ce qu'on va voter? Comment est-ce qu'on va vivre là-bas?
Anne-Luc, envoyée spéciale de la Voix de l'Amérique au Nigeria, jointe à Abuja.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections nigérianes du 28 mars. Enjeux et acteurs clés. Le Nigeria choisira-t-il la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Boko Haram de Shekau jouera-t-il le trouble fête? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Le gouvernement burkinabé vient de lancer le programme socio-économique d'urgence de la transition. Il vise à créer des emplois pour les jeunes, à soutenir les activités rémunératrices des femmes et à renforcer les infrastructures éducatives et sanitaires de Ouagadougou. Reportage de notre correspondant Zoumana Wonogo.
C'est à l'issue d'un conseil extraordinaire des ministres que le gouvernement burkinabé a lancé son programme socio-économique d'urgence. Suivant Jean-Gustave Sano, le ministre burkinabé de l'économie et des finances, sur les grands traits de ce programme.
Le programme socio-économique d'urgence, la transition, est un ensemble de projets donc, qui vise à améliorer donc, les conditions de vie des populations, et en particulier donc, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi des jeunes.
Comme la particule urgence l'indique dans son intitulé, ce programme socio-économique vient se coller à l'objectif premier de la transition, à savoir l'organisation des élections. Car, assure Marcel Tankwano, le président de l'association M21, les problèmes du Burkina ne sont pas que politiques.
Les gens ont fait. On n'arrive pas à envoyer les enfants à l'école. Le problème de l'éducation, santé. Nous pensons qu'au niveau politique, on doit résoudre ces problèmes. Si on n'arrive pas à résoudre les questions sociales, on ne peut pas tenir. Si les gens quand même ressentent que dans les paniers de ménagères, là, si vraiment il y a un changement considérable, c'est en ce moment qu'on a gagné, la transition a gagné. Et puis bon, ça justifie pourquoi on a chassé Blaise Compaoré.
Sidiki Dramé, responsable syndical et membre de la coalition contre la vie chère, insiste lui plutôt sur la cherté de la vie. Suivant.
Au niveau de la coalition contre la vie chère, quand même, il y a des problèmes concrets qui ont été posés. Nous demandons toujours que les produits de grande consommation, que leur prix soit revu à la baisse. C'est bien de créer des emplois, on ne sait pas à quelle durée cela va avoir, mais il y a des problèmes concrets auxquels justement toutes les populations sont confrontées, travailleurs comme chômeurs et autres. Baisser le carburant significativement, surtout les crimes de sang et les crimes économiques.
Basant sur des exemples du passé, Issoub Sondé, analyste politique, reste dubitatif jusqu'à preuve du contraire, il le dit.
Nous espérons seulement que cela soit une réalité, parce qu'il y a beaucoup de fois on nous annonce ces genre de choses, on se rappelle qu'au temps de Blaise, en 2014, on a dit que 110 milliards, on n'a pas vu grand chose. Espérons qu'ils vont bien étudier et puis savoir ce qu'ils vont faire.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Il y a un an, jour pour jour, c'était en effet le 23 mars 2014, la Guinée confirmait le premier cas de virus Ebola. Il y a un an après, quelques 3000 personnes ont été contaminées et plus de 2200 décédées. Même si le pays poursuit l'essai clinique vaccinal, la lutte contre la maladie semble difficile à cause des réticences dans la région côtière, nous dit de Conakry Zakaria Camara.
Un an après la déclaration du virus Ebola en Guinée, on en est à plus de 3000 cas et plus de 2200 décès. Le dernier bilan publié samedi donne 69 malades dans les centres de traitement, dont 60 cas confirmés. Ebola continue de faire des victimes et 12 mois après, des Guinéens, chacun y va de son constat.
En Guinée, elle persiste parce que les mesures prises ne sont pas encore appliquées à 100%.
Pour moi, il manque de coordination. C'est la gestion qui fait problème. Il n'y a pas une bonne suivi aussi.
Si l'argent est utilisé en bon escient, il n'y aura pas de ce rebondissement quoi, sur la maladie d'Ebola. On allait finir très tôt.
La lutte contre Ebola est maintenant plus orientée vers la Basse-Côte, région où se trouve la capitale Conakry, car les réticences se sont répétées dans cette partie du pays où l'on compte plusieurs dizaines de cas. Alors que le Sud ne présente aucun malade dans les centres de traitement. Le ministre guinéen de la Communication explique pourquoi Ebola fait plus de victimes actuellement en Basse-Guinée. Alhoussène Makane Rakake.
Vous savez, la Basse-Côte, d'abord, c'est la capitale de la Guinée. Donc, c'est la somme de toute la Guinée. Il y a aussi la présence de la Sierra Leone à côté de Forécaria, qui partage 150 km le long des frontières.
Face au nouveau foyer, les autorités sanitaires ont annoncé des mesures fermes, comme par exemple traduire des personnes devant un juge. La Coordination nationale de lutte contre Ebola appelle à la mobilisation. Son chargé de communication explique les nouvelles mesures. Foretas Silla.
Si une personne cache un malade dans le quartier sans nous informer, si jamais on découvre que cette personne décédée est Ebola, là la personne qui a gardé le corps sera poursuivie en justice.
L'an 1 d'Ebola en Guinée, c'est aussi le décès de 108 agents de santé et la guérison pour plus de 1000 cas confirmés au départ. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Muntou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Avant de se séparer, un rappel des titres, Saloua.
Le verdict est tombé dans le procès de Karim Ouad, le fils de l'ancien président sénégalais, écope de 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite.
Mouvement de contestation en Sierra Leone, les parlementaires de l'opposition rejettent la décision du président Ernest Bai Koroma de limoger son vice-président.
En Tunisie, le Premier ministre limoge 5 responsables de la police après avoir constaté des lacunes dans la protection du quartier du musée du Bardo, théâtre il y a 5 jours d'un attentat qui a coûté la vie à 21 personnes.
Au Nigeria, les Nigérians ont rendez-vous avec les urnes ce samedi. La campagne électorale bat son plein. Goodluck Jonathan au coude à coude avec son principal rival, Muhammadu Buhari.
Voilà pour les titres à la mise en onde ce soir. Michel, à la console, Chan Chaogan. Présentation, Saloua Jafari et Idrissa Sidoudia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Ouagadougou, sur 102.4 FM. À Douala, Radio Balafon. Raga FM, Kisangani. À Zinde, Niger, Enfani FM. Et bien d'autres encore.
sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.